Pour tous les amoureux du jazz, Marie-France Guimaroche a le très grand plaisir de vous présenter Jazz Rétro. Je connais la réputation de Miles Davis et j'ai été très étonnée de découvrir qu'il avait partagé la vedette avec un autre trompettiste, de grand talent certes, mais quand même, sur un album intitulé d'ailleurs Miles Davis et Freddie Hubbard, Jazz Cool, Cool Blues. Hubbard commence la trompette et le bugle au Arsenal Technical High School à Indianapolis, États-Unis. Dès son jeune âge, il joue avec le guitariste Wes Montgomery. Celui-ci devient son modèle. Il s'en inspirera tout au long de sa vie. Il poursuit ses études musicales au Arthur Jordan Conservatory of Music. En 1958, il déménage à New York où il joue avec Ornette Coleman, Eric Dolphy, Sly Dompton, Gigi Johnson, Philly Joe Jones, Quincy Jones, Oliver Nelson, Joey Zawinul, Wayne Shorter et Sonny Rollins. Il se met ensuite au hard pop dans le groupe Art Blakey and the Jazz Messengers. Avec ce groupe, il crée d'ailleurs plusieurs albums dont Mosaïque, Buena's Delight et Free for All. En juin 1960, Hubbard enregistre son premier album en tant que leader, Open Sesame, en compagnie du saxophoniste Tina Brooks, du pianiste McCoy Tyner, du bassiste Sam Jones et du batteur Clifford Jarvis. Au mois de décembre, il est invité à participer à l'album d'Ornette Coleman, Free Jazz, à Collective Improvisation, après que Coleman l'a entendu jouer avec Don Cherry. Lui aussi, Hubbard, faisait partie des 300 musiciens sollicités par Panonica pour les fameux trois vœux. Les voici. Premier vœu, le bonheur. Deuxième vœu, le succès. Troisième vœu, je n'arrive pas à trouver le troisième vœu. J'essaie d'en trouver un... Ah, je sais, je veux un enfant. Thank you. En mai 1961, Hubbard enregistre Olé Coltrane, invité par John Coltrane lors d'une séance dans les studios d'Atlantic Records. C'est au mois d'août de la même année qu'il compose l'un de ses plus célèbres titres, Ready for Freddy, en collaboration avec le saxophoniste Wayne Shorter. C'est lorsqu'il joue avec le hard blackest Jazz Messenger qu'il développe son propre son, s'éloignant des influences de Clifford Brown. Il obtient le titre de nouvelle star dans le magazine de jazz Downbeat. Dans les années 1960, il enregistre 36 albums. La plupart sont aujourd'hui des classiques. Il se lance aussi dans le free jazz. Je dois vous avouer, j'aime moins quand même le free jazz. Dans les années 1970, Freddy entre dans le groupe VSOP, dirigé par Herbie Hancock. Ce groupe innove dans le nouveau genre de jazz, le free bop, mélange de bebop des années 40, de modalités des années 50 et de free jazz des années 60. Freddy connaît quelques-uns de ses plus grands succès avec cette formation. Les années 1970 sont le point culminant de la célébrité de Freddy Hubbard. C'est dans ces années qu'il enregistre au Palladium son plus grand album, California Concert, incluant le célèbre Red Clay. Il effectue des improvisations sensationnelles et d'excellentes performances musicales. Il est alors considéré comme un des plus grands trompettistes de l'époque. Grâce à un son unique et son art d'improviser, il contribua à l'expansion du modern jazz et du bebop. Davies Hubbard, The Court. We'll be right back. du batteur Philly Joe Jones avait été aussi recueilli par la baronne. Il était le deuxième de la liste des 300 musiciens et venait tout de suite après Thelonious Monk. En fait, c'était seulement du fric, du fric, du fric, répété trois fois. Il a tout de même droit à trois polaroïdes dans le livre de Nika, pris sur le vif à Catahoose avec sa volumineuse batterie ou dormant tout simplement écroulé de fatigue sur des coussins. La nuit avait dû être rude et les jam sessions endiablées. Né en 1923, Philly Joe Jones apprend les bases de la musique avec sa mère, professeur de piano. Il étudie ensuite la batterie avec Cozy Cole et Charles Wilcoxon. Dans les années 40, il commence sa carrière professionnelle dans des orchestres de rhythm and blues. Il travaille à Philadelphie, accompagnant les jazzmen de passage dans la ville, comme Dexter Gordon, Fats Navarro. En 1945, après son service militaire, il est un temps chauffeur de taxi. En 1947, Philip Joe Jones devient le batteur régulier du Club Café Society. Il y accompagne le gratin du bebop Charlie Parker, Dizzy Gillespie et Fats Navarro. Stop, look and listen. Joe Jones joue aussi dans les orchestres de Ben Webster, Joey Morris, Tiny Grimes, Lionel Hampton et surtout Tad Dameron en 1953. De 1955 à 1958, il travaille dans les formations successives et il y en eut. De Miles Davis, dont le mythique quintet avec John Coltrane, Red Garland et Paul Chambers, puis le sextet avec Cannonball Adderley. Renvoyé par le trompettiste pour son récurrent absentéisme. Philly Joe Jones est hélas un junkie notoire. Il devient musicien freelance. De 1958 à 1962, il enregistre avec les grands noms du bebop et du hard bop. On peut l'entendre dans une multitude d'albums pour Riverside Records, Blue Note Records et Prestige Records. Il enregistre, entre autres, avec le pianiste excellent Bill Evans qu'il avait croisé pendant quelques semaines dans le sextet de Miles Davis, dont il sera par la suite le batteur du trio régulier à plusieurs reprises. À partir de 1962, des problèmes personnels l'éloignent régulièrement du devant de la scène de jazz, hélas. De 1967 à 1972, il vit en Europe, successivement à Londres et à Paris. Il joue à cette époque avec certains musiciens emblématiques du free jazz, comme Archie Shepp. De retour aux États-Unis, il forme un groupe de jazz fusion, Grand Prix. En 1976, il est pendant quelques mois membre du trio de Bill Evans. Il travaille ensuite un temps avec Red Garland. En 1981, il forme l'éphémère Dameronia, un groupe consacré à la musique de Tad Dameron. Voici non pas la maison des chats, mais celle des oiseaux, Bird House, avec Miles Davis et Freddie Hubbard. Thank you. Marie-France Guimard-Roche vous dit au revoir et à bientôt pour un nouveau numéro de Jazz Rétro, enregistré par Pierre Écart et réalisé par Roland Richard dans les studios du Rocas de Radio Grand Ciel.